Bonjour, Marie, donc rapidement pour dire que le plaisir que j'ai à retrouver tous les amis, copains, cousins, collègues très anciens, donc c'est moi je ne pas, et aussi que je connaisse cette occasion, y compris Catherine hier, Philippe tout à l'heure, avec qui on a parlé il y a à peine 15 jours à Tunis. Voilà. Donc, je vous prie d'abord de, si vous permettez, de radier le terme risque terroriste dans l'intitulé. Et donc, ça serait plutôt migration, économie parallèle et contrôle des territoires, si vous pouvez changer. Excusez-moi, c'était un moment où on était pris dans cette. Et je n'ai pas fait gaffe que j'ai. Donc, contrôle des territoires, parce que là, tout à l'heure, comme on le verra, on est pris dans des. Voilà. Par contre, les enjeux de gestion des frontières, c'est le sujet justement de mon intervention. Donc, cette intervention, elle touche à l'évolution socio-économique et politique, et peut-être justement sécuritaire éventuellement, dont je parlais tout à l'heure, de territoires frontaliers avec la Libye. Je parlerai un peu des territoires, enfin des frontières avec l'Algérie, mais juste à titre de comparaison quand il le faut. Alors, il s'agit bien sûr d'une zone caractérisée par sa profondeur historique et sociale, d'abord une très forte dimension sociale historique, et c'est une zone qui est concernée par des recompositions politiques et territoriales liées à la manière dont les États, surtout le cas tunisien, l'État tunisien dont je m'occupe là, que je traite dans cette intervention, donc la manière dont les États ont régulé et administré la mobilité, la circulation des personnes et des biens, donc les échanges marchands, qui ont toujours accompagné cette mobilité. Donc il s'agit aussi de suivre comment l'État tunisien a appliqué ou n'a pas appliqué les normes, les règles de contrôle sur ce territoire, c'est-à-dire sur la mobilité, contrôle de la mobilité, et contrôle des échanges marchands. Alors, tout à l'heure, je vais le dire, hein, je vais vous montrer, économie marchande que l'on peut oser, enfin que j'ose qualifier, mais c'est ouvert au débat, qualifier de populaire, de sociale, diffuse. Pourquoi ? Parce qu'elle intègre en fait un grand nombre, une masse, je dirais, de personnes qui appartiennent à une variété de catégories sociales qui tirent profit, qui vivent des revenus et des ressources tirées de cette activité. Donc c'est une économie qui, avec le temps, s'est transformée en secteur de substitution, je dirais, à une politique publique de développement et d'investissement régional ou local, et donc d'implication de l'État. Donc l'État ne s'est pas beaucoup impliqué, et il s'agit bien d'une région qui était longtemps laissée à l'écart, qui, enfin, même les populations locales considèrent qu'elle est toujours laissée à l'écart, par un pouvoir central, pour des raisons longues à expliquer, mais beaucoup parmi vous les connaissent, qui touche au rapport entre l'élite qui a pris le pouvoir en 1956 en Tunisie, rapport avec les populations du Sud d'abord, le mouvement youssoufiste surtout, et puis aussi rapport avec la Libye et même en partie avec l'Algérie à un certain moment parce qu'il y avait bon, le pouvoir de Mbella, de Boumediene, donc sur le plan idéologique, Bourguiba et les leaders libyens et algériens n'étaient pas sur la même longueur d'onde au niveau idéologique, disons, et par rapport au nationalisme arabe. Et au mouvement de libération, surtout pour l'Algérie. Alors, dernier point dans cette introduction, cette zone résume ou cristallise une longue histoire, je dirais c'est peut-être là où je voudrais qu'on en discute éventuellement si on a le temps, une longue histoire de dilution des règles et des normes de contrôle des territoires par l'État. Le contrôle des frontières d'abord, on verra l'État n'a pas pu ou n'a pas voulu à un certain moment contrôler la circulation aux frontières et la dilution des contrôles, des règles de contrôle des activités que ces frontières, en tant que ressources, génèrent. Alors, il s'agit bien sûr d'une zone d'une zone si vous permettez, voilà, donc d'une plaine littorale qu'on appelle la Jfara, qui est du deux côtés de la frontière, une plaine littorale, et puis une autre zone qui est la Jbel Nfous, qui est ici, du côté de Nalout et du côté de ce qu'on appelle aussi le Jbel Gharbi, qui est aussi partagée entre, qui a été partagée entre les deux zones. Et les frontières, en fait, ont été instituées en 1910 en vertu de l'accord franco-ottoman de traçage des frontières. Avant 1910, cette zone était une zone de parcours partagée ou disputée entre les Noué, un groupe libyen, les Noué, du côté libyen, et du côté tunisien, les Toisines. Donc il s'agissait, enfin, d'un voisinage paisible, souvent tendu parfois, mais bon, classique dans les relations tribales entre les frontières, entre les groupes transfrontaliers. Donc en 1910, il y a eu le traçage des frontières, et en 1911, il y avait le premier exil massif des réfugiés libyens en Tunisie. Le deuxième exil massif, c'était en 2011, exactement un siècle plus tard. Donc, à l'époque, en 1911, les tribus, des tribus entières des groupes tribaux sont installées en Tunisie, dans toute la Tunisie, et ce qui fait que les Trabelsis, c'est vraiment, je dirais, ça fait partie du tissu, je veux dire, social tunisien. Vous vous souvenez, Bourguiba était considéré comme un Trabelsi. Les gens qui n'aimaient pas beaucoup Bourguiba disaient que c'était un Trabelsi. Et puis, nous avons failli avoir une leader, une présidente Trabelsi, qui est Leïla Trabelsi, la femme de Ben Ali. Alors, donc, le deuxième élément qui permet de dire qu'il s'agit d'une région toute en ayant été, je veux dire, coupée en deux, elle a gardé une certaine proximité sociale entre les groupes des deux côtés de la frontière, et je dirais même une forte unité, c'est le fait qu'il y avait alliance aussi dans la lutte contre la colonisation italienne du côté donc libyen et française. Et donc on peut dire que l'effet de la frontière, de la mise en place de la frontière, a donné lieu à deux types d'alliances, alliance sociale, un rapprochement entre les deux groupes, des groupes des deux côtés de la frontière, et aussi alliance dans la lutte contre la colonisation. Et là, il y avait pas mal de fois où les leaders des soulèvements, que ce soit du côté tunisien ou du côté libyen, se réfugiaient de l'autre côté chez les groupes pour justement qui les protégeaient. Alors, pendant cette période-là aussi, c'est très important, est née la contrebande de produits de première nécessité à l'époque, les années 20, les années 30, qui étaient extrêmement rares ou fortement taxés. C'est vraiment banal, hein? Le sucre, le thé, enfin le tabac, c'est un peu moins banal, parce que s'il s'agissait d'un contexte en gros de pénurie, parce que la première guerre, après la crise des années 30, et après la deuxième guerre, on peut dire que sur la première moitié du XXe siècle, la contrebande a beaucoup prospéré dans un contexte de pénurie et d'économie de guerre. Et cette économie de la contrebande, qui est bien sûr contre les pouvoirs coloniaux des deux côtés de la frontière, surtout du côté tunisien, était une contrebande qui s'est développée grâce à l'alliance des groupes tribaux, comme pour la lutte contre la colonisation, la lutte politique. Donc, grâce à l'alliance entre groupes tribaux frontaliers unis par le partage. Donc, de deux causes, comme j'ai dit, lutte contre la colonisation et partage des intérêts, proximité sociale, il y avait des mariages mixtes, beaucoup de circulation des biens et des personnes, et de recomposition familiale entre les deux groupes. Alors, nous arrivons rapidement aux années 70-80. La Libye est devenue un pays pétrolier avec l'envolée des prix du pétrole, attraction des migrants, y compris tunisiens. Mais tension politique entre les deux régimes, entre les deux pays, entre les deux États. Et donc, ce qui a donné lieu à la restriction de la mobilité, expulsion, accrochage armé, et puis surtout, on voulait je veux dire, de la contrebande, parce que la Libye commençait à importer beaucoup de produits subventionnés, comme je vais le dire tout à l'heure, alors que du côté tunisien, il y avait de plus en plus de restrictions et même d'augmentation des taxes. Et donc, c'est à cette époque-là aussi qu'a émergé ce qu'on appelle la migration, enfin ce qu'on appelle le phénomène Mazegri, que peut-être des gens le connaissent, qui est l'équivalent de la Harga. Les Mazegri sont les migrants irréguliers par voie terrestre qui rentraient en Libye par des passeurs de ces groupes frontaliers, comme les Haraga qui traversent la mer pour, en direction de l'Italie. Et donc, ce sont les groupes frontaliers actifs dans la contrebande qui ont organisé, qui ont servi de passeurs à cette migration illégale. Donc, c'est dans cette zone-là, comme je vous ai dit. Donc, ça a recommencé dans les années 90-2000, mais c'était déjà, je veux dire, le phénomène était existant déjà pendant la période des années 70-80. On peut dire que ces groupes n'ont jamais été reconnus, ni considérés, ni associés par l'État. Ce qui explique qu'ils étaient tout le temps dans des stratégies de contournement des normes et des règles, je veux dire, de contrôle. Et aussi, il faut dire que du côté libyen aussi, il y avait une alliance entre les deux groupes par rapport à ça. Dans la contrebande, ce sont les groupes libyens à protéger les migrants irréguliers et les recevaient pour travailler justement dans le bâtiment, dans les différents. À partir du moment où les États mettent beaucoup de normes, je veux dire, c'est les groupes sociaux répondent pour contourner ces lois. En 87, il y a eu le dépôt de Bourguiba, et en 88, institution de la libre circulation des personnes et des biens. Et je n'exagère pas en disant que les Tunisiens, je ne crois pas que surtout les Tunisiens, se sont rués sur les magasins d'État en Libye qui commercialisaient des produits importés par l'État libyen et qui étaient subventionnés. Et c'est ce différentiel de prix et de revient des produits qui génère cette rente qui est à l'origine de l'économie marchande que je vais vous décrire. Parce que le coût d'un produit, par exemple, qui était importé sur le marché libyen, disons que c'est un indice de 100. Il est subventionné par l'État libyen, donc il descend à 50. Le même produit qui vient de l'étranger, donc il a presque le même prix de revient, il est commercialisé sur le marché tunisien, taxe de l'État, taxes douanières et taxes diverses, donc il monte à 150. Ce qui fait que quand il rentre par le circuit de l'économie parallèle, le même produit coûte un tiers moins cher en Libye que trois fois plus cher en Tunisie qu'en Libye, ou son prix en Libye, il est le tiers que celui qui est pratiqué en Tunisie. C'est ce qui est à l'origine, à la base de cette rente et justement de cette prospérité de l'économie pétrolière. Et d'ailleurs, en 1992, quand la Libye a été soumise à l'embargo, avant 1992, avant l'embargo, avec un dinar libyen, on obtenait 3 dinars tunisiens, et avec l'embargo, c'est exactement l'inverse. Parce que, je veux dire, la Libye était soumise justement à cet embargo, ce qui a fait que, après, c'est le dinar tunisien qui donnait lieu à. Qui valait 3 dinars libyens. Donc, on peut dire que cette rente qui était de 3 fois plus. Enfin, 3 fois par rapport à la Libye, elle a encore doublé avec cette période. Donc, on peut dire qu'il y a eu. Une irrigation, une invasion du marché tunisien par les produits qui étaient introduits de Libye et qui étaient à leur tour importés par la Libye. Et c'est ce qui explique l'extension de ce qu'on appelle le souk libre, des marchés libyens, où on avait tout produit. Donc là, si vous. Voilà. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, mais bon, pratiquement tout produit, hein, alimentation, confection, équipement de la maison, électroménager, carburant, équipement agricole, outillage. Et ça a donné surtout lieu à une mobilité intense Combien? 5 minutes. Mobilité intense, parce que jusqu'à 88, le nombre de mouvements frontières, c'était 5000, avant l'ouverture de frontières. Et à partir de 88, on avait à peu près entre 4 et 5 millions de mouvements aux frontières, c'est-à-dire du côté libyen comme du côté des Tunisiens, à la sortie comme, c'est-à-dire on compte le total, le volume total de la circulation. Donc vous voyez que, je veux dire, la différence entre avant 88 et après, et on peut dire que pour financer et tenir et alimenter cette économie marchande, il y a eu l'émergence d'un autre secteur, d'un autre pan de cette économie marchande, qui sont ce qu'on appelle les cambistes ou les sarrafa, c'est-à-dire qui font le change parallèle, c'est des bureaux de change parallèle, qui sont tenus par les groupes locaux et surtout certains de leurs leaders qui brassent des millions, voire des milliards. Hein. Je veux dire, si on compte l'effet cumulatif depuis 88, et donc ça a donné lieu à une accumulation extraordinaire, je veux dire, de capitalistes, de devises et de monnaie locale aussi bien libyenne que tunisienne. Et je ne crois pas qu'on exagère si on parle vraiment de véritables cartels, de groupes qui alimentent de manière informelle cette économie marchande des échanges, qui sont eux-mêmes bien sûr informels. Alors, premier effet, c'est que de cette économie marchande, c'est l'arrêt de la migration irrégulière d'abord. La libre circulation, le libre séjour, la libre activité salariée des Tunisiens en Libye et des Libyens en Tunisie a permis surtout d'arrêter la migration irrégulière des Tunisiens. C'est un secteur donc informel qui fait vivre pas seulement les ménages et les populations de la région frontalière, mais aussi tous les pays, puisqu'on a dit, je veux dire, cette économie informelle, ces marchés de Libye, on les trouve partout, et donc ils faisaient vivre énormément de ménages. Et donc on peut parler, je ne crois pas qu'on exagère, si on peut parler d'une véritable zone de libre-échange. La Tunisie est devenue en quelque sorte un hypermarché à ciel ouvert. Bien sûr, je veux dire, dans cette économie, c'est une zone aussi où les trafics et la contrebande, les passages sur les routes génèrent une économie criminelle, au moins en partie. Une économie de la fraude, corruption, pot de vin, clientélisme, droit de passage payé directement aux forces de l'ordre, aux douanes. Et c'est ce qui a donné lieu à une consolidation de l'emprise des leaders locaux de la contrebande et de la fraude, avec une hiérarchie allant des donneurs d'ordre et des détenteurs de fortune colossale aux petits, bien sûr, au sommet, aux petits colporteurs qui s'occupent un peu de passage des produits. Donc là, je vais rapidement, parce qu'en fait, bon, il s'agit de familles, de clans locaux, transfrontaliers, qui ont des dimensions transnationales, nationales. On a parlé à certains moments de cette famille, dont une famille qui était implantée, qui contrôlait le commerce parallèle. En 2011, alors je vais surtout insister sur les ruptures et les continuités de cette frontalière, dans les fonctions de cette zone frontalière. Alors, d'abord, au niveau des ruptures, d'abord cette zone, tout à l'heure, les intervenants dont on en parlait largement, donc je ne veux pas y revenir, est devenue une zone de transit et de flux de passage de centaines de milliers de migrants et aussi de Libyens, de familles libyennes, qui sont installés en Libye pendant les années, enfin surtout l'année 2011, mais ça a commencé en 2014, mais c'est pas le sujet. Alors aussi, ce qui a continué, c'est la circulation des Libyens. C'est pas l'asile, je parle de la circulation, du mouvement, des mouvements aux frontières dans les deux sens. Alors la rupture, d'abord c'est la première expérience, on en a parlé tout à l'heure, la première expérience de la Tunisie pour avoir abrité le premier camp formelle de réfugiés et surtout les trafics d'armes et d'autres produits illicites, drogues, etc. L'or, les familles libyennes ont beaucoup vendu leur or en Tunisie pour justement pouvoir s'installer, se soigner en Tunisie. Et on peut dire que les cartes se sont beaucoup embrouillées après 2011 parce que les groupes frontaliers tribaux qui contrôlaient cette frontière et cette économie, du côté libyen comme du côté tunisien, ont été en quelque sorte marginalisés. Alors du côté libyen, ce sont les Noueïs et surtout les Mhamid. Là, je le dirai, enfin, je l'expliquerai dans le papier, qui sont proches de l'ancien régime de Kadhafi et donc qui ont été bien sûr marginalisés au profit de qui? De ce qu'on appelle les Thouars, les révolutionnaires, c'est-à-dire Ah oui, c'est ça la carte, voilà, elle est passée. Excusez-moi. Voilà. Donc, mais c'est une carte ancienne, mais de toute façon, elle est toujours valable au niveau, je veux dire, du volume de population. Donc, vous passez, vous revenez sur la carte de la Libye, la première carte de la Libye, la première. Voilà. Et donc, c'est des groupes qui sont de Zeroui, Azouar, Amstrata, Sabrata, qui ont pris le contrôle de la frontière. Et du côté tunisien aussi, c'est l'émergence du poste frontalier de Vriba. Voilà. Donc, Vriba qui est devenu qui a repris une partie du trafic, et entre autres, à peu près 30 à 40% du trafic qui était uniquement contrôlé par du côté de Rajdir, au nord de Benguerdène, par le groupe ce qu'on appelle des Tuazis. Donc, on peut dire que là aussi, les Tuazis ont perdu de leur contrôle, de leur maîtrise de ces trafics de produits pétroliers surtout. Et la conséquence, c'est que les règles du contrôle et de la maîtrise des frontières ont été brisées en quelque sorte. Elles sont perdues, pas seulement les règles de partage des responsabilités de contrôle entre l'État et les groupes frontaliers, mais aussi entre les groupes frontaliers eux-mêmes. D'où des tensions, coupures de route, blocages, frontières, des deux côtés. Ce sont les trafiquants de tous bords, les trafiquants de tous bords qui en ont profité, y compris les trafiquants d'armes, de migrants, vous en avez parlé, et aussi de combattants djihadistes, les passeurs, comme des passeurs de produits, passeurs de migrants, mais aussi passeurs de routes. Et il y a eu donc interférence, chevauchement entre les réseaux et les échanges de la fraude, donc l'économie de la fraude, et les trafics illicites, dont ceux des djihadistes ou, des produits illicites comme la drogue ou les armes. Et dans ce cas-là, je crois que l'avènement du terrorisme a changé radicalement et a bouleversé la manière dont l'État contrôle les frontières, puisque on assiste actuellement, depuis 2 ans, depuis 2013 pratiquement, à une militarisation extrême des zones frontalières, déploiement sécuritaire intense avec l'implication de 4 corps sécuritaires qui sont sous commandement militaire, un réseau de points de contrôle qui sont très rapprochés dans la zone frontalière et même très loin à l'intérieur de la Tunisie, et surtout un mur de séparation avec une dimension électronique. Là, je crois que c'est les dernières diapos. Ce mur qui est en fait une première en Tunisie, parce que on allait dans le temps, et il me semble que Jean-Pierre, hier, je crois que tu me parlais d'une rumeur que du côté algérien aussi, on est en train aussi de mettre en place un mur de séparation. Donc, je dirais que le problème qui se pose, et la question qui se pose, c'est au bout de tant d'années et de décennies, je dirais d'understanding, de tolérance de la part de l'État vis-à-vis de cette économie informelle, il y a Bien sûr, d'un côté, cette économie informelle, la fraude, la corruption qui l'accompagne, mais surtout de l'autre, un renforcement du contrôle sécuritaire de l'État pour prévenir la menace la plus extrême, qui sont les actions terroristes. Et dans ce cas-là, la question que je pose, est-ce que l'État, pour garantir une association, une implication, entre guillemets, une coopération des groupes frontaliers qui contrôlent l'économie informelle, ne sont pas-elles en train de consacrer et peut-être de faire un choix, je dirais, stratégique, de déléguer une partie du contrôle du territoire à ces groupes? Alors, on ferme les yeux sur je veux dire, les activités économiques, les échanges que vous faites, et comme avant 2011, vous assurez une surveillance avec l'État de ces territoires. Et la preuve, c'est que, par exemple, ces derniers mois, ce sont des groupes locaux qui ont servi d'intermédiaire ou qui ont essayé de servir d'intermédiaire ou qui ont forcé l'État à accepter qu'ils servent d'intermédiaire dans les négociations par rapport aux journalistes ou les pourparlers journalistes qui sont enlevés. Donc, indice qu'ils ont été assassinés, ou même dans l'enlèvement et l'emprisonnement de Tunisiens, enfin de ressortissants tunisiens en Libye. Donc, on sent que l'État est en train de céder, j'espère que ce n'est pas définitivement, une partie de sa souveraineté de contrôle en contrepartie d'une protection d'un intérêt qu'on peut considérer supérieur, qui est la lutte contre les groupes terroristes. Je veux dire, je crois que c'est la question enfin, enfin, que je pose, mais c'est une hypothèse, mais enfin, ce serait bien qu'on en discute. Merci beaucoup.